Cap Cap,
Gilles Labouroir,
Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap Cap thématique, les Jeux Olympiques, suite et fin. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Ça y est, ils sont terminés, ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Ils ont fait couler beaucoup d'encre, beaucoup d'avis sceptiques, inquiets, voire catastrophistes se sont exprimés avant leur tenue. Au final, force est de constater que ce fut une réussite. Nous avons su organiser un événement complexe. Nos metteurs en scène et scénaristes ont démontré toute leur créativité et leur maîtrise artistique au cours des belles cérémonies d'ouverture et de clôture. Bref, un sans faute. Dans quelques mois, la Cour des comptes nous dira si ce sans faute s'étend à l'aspect financier de la chose. Là, ce sera peut-être un autre combat, une autre problématique, d'autres débats. Mais soyons prudents, nous allons attendre pour voir. Pas d'anticipation malvenue. Les Français n'ont conçu de la fierté, ils ont retrouvé une certaine confiance dans les capacités de leur pays à occuper le devant de la scène. Ce fut une trêve, une bouffée d'oxygène bienvenue dans un contexte social et politique morose et peut-être même anxiogène. Et surtout, pendant ces quelques semaines, les politiques se sont fait discrets, on ne les a pas entendus, ce fut bien reposant. L'on a uniquement vu des sportifs à l'œuvre, on a pu apprécier leur qualité, leur valeur, leur capacité à se concentrer sur un but, à mouiller le maillot pour l'atteindre, leur humilité, leur abnégation, leur permettant de passer des heures, des jours à s'entraîner loin des lumières et du public. Bref, nous avons vu des femmes et des hommes, des handicapés, nous démontrer qu'ils étaient des vrais gens, un peu comme nous finalement, durs à la peine, engagés totalement physiquement et moralement, débattants, ne trichant jamais, éminemment respectable, sinon admirable. Quelle différence avec le pitoyable spectacle que nous offre le monde politique. Au printemps, durant quelques émissions, Gilles Labouroir nous a retracé l'histoire du mouvement olympique depuis sa création jusqu'à nos jours. Il nous a fait revivre les grands moments des Jeux, heureux et dramatiques. Il nous a dressé le portrait de certains acteurs majeurs de ceux-ci. Et aujourd'hui, en guise de conclusion de cette saga olympique, nous allons l'écouter nous dresser la synthèse de ces derniers Jeux et nous dire les leçons qu'il en tire, les réflexions que ces Jeux lui ont inspirées. Bonjour, cher Gilles.
Merci, Jacques, et bonjour. Chers auditeurs, donc aujourd'hui, le rideau est tombé sur ces Jeux olympiques et paralympiques, comme vous dites. Et que restera-t-il dans 20 ans ? Sans doute
des souvenirs, quelques images,
toujours des athlètes, quelques drames, on va en parler un peu. Mais quand même, comme vous le rappeliez en introduction, il y a quand même eu 25 millions de téléspectateurs pour suivre la cérémonie d'ouverture. D'une manière générale, 20 millions de téléspectateurs chaque jour.
Ça, c'était du spectacle, c'est pas forcément du sport.
Oui, mais quand même, les Français étaient présents, et même au niveau international, ça a été un succès. Plus important, je pense, que Londres 2012. Ce qu'il va rester des Jeux de Paris, c'est quand même, bon, non seulement cette cérémonie d'ouverture sur la Seine, sur 6 kilomètres, ce patrimoine français qu'on a vu quand même. La Tour Eiffel, là où il y a eu le Grand Palais, les Invalides, l'Esplanade des Invalides, le Château de Versailles, là où se sont déroulées quand même les épreuves. Le beach volley, derrière la Tour Eiffel. Et pour les Brésiliens, c'était mieux que ce qui se passe sur la plage de Maracana. Donc, je pense quand même que ça a été un succès. Et même la France, on va le dire, a fini quand même dans de bonnes positions. Cinquième au niveau des médailles, parce qu'on tient compte, bien sûr, du classement des médailles d'or. Sinon, si on tenait compte des médailles totales au niveau des Jeux Olympiques, la France aurait pu finir troisième. Et huitième au niveau du paralympisme, ce qui est quand même bien, même très bien. Et on va sans doute y revenir dans la discussion, quand même des Toulousains qu'on a vu. Léon Marchand, le nageur, on en avait déjà parlé. Le nageur des Dauphins du Touareg qui s'entraîne aux États-Unis avec Bowman, l'ancien entraîneur de Michael Phelps, la légende de la natation. Et puis aussi la boxe toulousaine avec Bilal Benhamma, mais aussi Soufiane Oumia, qui ont obtenu 2 médailles d'argent. Voilà, je pense qu'il est bon peut-être de faire le tour d'horizon, un bilan de ces Jeux, peut-être, d'abord.
Oui, eh bien, allez-y, Gilles, dites-nous. Dites-nous.
Alors, la France, elle finit avec 64 médailles, donc en troisième position au nombre de médailles. Derrière les États-Unis, qui en ont obtenu 126, et la Chine, 91. Mais le classement se fait au niveau des médailles d'or. Donc là, nous reculons de 2 places, nous sommes 5e. Les États-Unis ont obtenu 40 médailles d'or, la Chine 40 aussi, mais moins de médailles au total. Le Japon, qui reste une place forte, en plus c'est sur la base de l'Olympiade de 2021 de Tokyo, bon, 20 médailles d'or.
Curieux, 45. Le Japon, pour un pays qui est quand même très vieillissant aujourd'hui, qui a d'énormes problèmes.
Oui, mais le Japon a des points forts, a des bastions incontournables. La gymnastique japonaise est revenue à l'ordre du jour. Oka, le japonais, a gagné le concours général. Le Japon a gagné le concours par équipe. Le tir à l'arc, il y a des spécificités, si vous voulez. Par exemple, quand on parle de la Chine, on y reviendra. La Chine a raflé toutes les médailles en plongeon, elle a raflé toutes les médailles en tennis de table. Bon, les États-Unis, n'en parlons pas, ils ont une armada d'athlètes en athlétisme, en natation. Pas surprenant, le Japon, parce qu'il a bénéficié de l'Olympiade de 2021. L'Australie vient en 4e position avec 18 médailles d'or, 53 médailles en tout. La natation australienne revient comme dans les années 60, c'est impressionnant, avec des points forts aussi dans d'autres domaines. On citera peut-être Jessica Fox tout à l'heure, une Française qui s'est expatriée à Sydney, dans la baie de Sydney, et qui a remporté sa 3e médaille d'or en canoë, ligne. Et puis, donc, la France finit avec 64 médailles et 16 médailles d'or. 26 médailles d'argent et 22 médailles de bronze. Donc les Français ont loupé des médailles d'or. Et ça, ils l'ont loupé. Ils ont loupé des médailles en escrime et en judo.
Est-ce qu'il y a une explication à ça ? Est-ce que
la pression, d'entraînement, alors pression, la pression on sait pas, des jeux, ouais, à la maison. En judo, l'équipe féminine est la meilleure du monde. Et en fait, elle a raté 5 finales. Et bon, les Français ont raté aussi dans les sports collectifs et les finales de basket. Mais bon, face à l'ogre américain, c'est normal.
À ce niveau-là, quand même, oui, ils pourraient se préparer un peu, non ?
Oui,
ça fait partie de la préparation, la pression, la gestion du
tout
stress.
À fait. Oui, la gymnastique, par exemple, a été un échec pour l'aviron aussi. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Y a quand même des points forts. On commencera peut-être par les points forts. Donc après, il faut voir que d'autres pays suivent. La France, les Pays-Bas, surprenant, 6e, le Royaume-Uni, la Corée du Sud, l'Italie, l'Allemagne, et je cite aussi en 10e position la Nouvelle-Zélande. Elle a le meilleur ratio de médailles d'or sur l'ensemble des médailles. Ça veut dire, quand en finale vous avez un Néo-Zélandais, je pense par exemple en voile ou dans certains domaines, par exemple en... Je pensais à Liza Carrington qui a écrasé toutes les finales de canoë en monoplace. Eh bien, chaque fois qu'il y a un Néo-Zélandais en finale, il gagne.
Il va au bout. Mais
voilà.
C'est un pays de sportifs.
Oui,
le physique est très important.
Pays de 4 millions avec du rugby, de la voile. C'est un pays extrêmement sportif. Les Néo-Zélandais, c'est mon pays fétiche d'ailleurs, lié au rugby. On va découvrir d'autres pays aussi. Hein. Si je vous dis Ouzbékistan en boxe, si je vous dis Sainte-Lucie en athlétisme, vous allez après, aujourd'hui, Jacques, je vais vous faire
un
cours de géographie aussi.
Géopolitique.
Pas géopolitique, vous êtes un spécialiste, mais géographie. Où se trouve Sainte-Lucie, où se trouve l'Ouzbékistan, ou le Kazakhstan, qui ont dominé la boxe, par exemple. Donc,
On n'a jamais parlé de dopage pendant tous ces Jeux.
Oui.
On n'a jamais entendu parler de dopage.
Non.
Autrefois, quand il y avait les républiques soviétiques,
oui,
les pays
fait
que vous avez cités,
oui,
là, ils étaient quand même farcis jusqu'aux yeux.
Oui, l'Allemagne de l'Est aussi.
Oui, l'Allemagne de l'Est. Bon, oui. Aujourd'hui, il n'y a pas eu du tout de problème.
Il y a des contrôles,
de dopage.
Mais pour le moment, les résultats ne sont pas acquis. Et donc, on va rester sur l'air que tout s'est bien passé. Il peut y avoir, en effet, quelques problèmes. On va signaler quand même un seul... Enfin, qu'est-ce qui est arrivé d'important, je dirais, qui a pu troubler les Jeux ? La boxeuse algérienne, Imane Khelif, qui remporte pour l'Algérie une médaille d'or en boxe, les championnes olympiques dans la catégorie des moins de 66 kilos. Et bon, non seulement elle a écrasé toutes ses adversaires, mais il y a eu une polémique sur les critères de féminité qui a suivi l'abandon de son adversaire italienne au premier tour. Donc, si vous voulez, il reste quelques éléments, mais je pense que là-dessus, c'est pas le plus important.
Elle est transgenre, c'était un homme,
oui,
au départ.
Voilà. Oui, mais la Fédération internationale de boxe l'avait quand même pas exclu.
Exclu, oui.
Donc le Comité olympique, après, suit quand même les fédérations mondiales. Hum. Voilà. Alors, on va commencer peut-être par les points forts. La natation, oui. 4 médailles d'or pour Léon Marchand. On en avait parlé.
On ne le connaissait pas vraiment, ce garçon-là.
22 ans, il s'entraîne au Dauphin du Toec. Son entraîneur, c'est Nicolas Castelt, et connu ici, sur Toulouse. Mais quand même, il s'entraîne aussi aux États-Unis, comme je l'ai dit, puisqu'il s'entraîne avec celui, le faiseur de roi, Bob Bowman, qu'on voyait près de la piscine, un homme de 75 ans qui entraînait Michael Phelps. Il rentre dans la légende parce que, si vous voulez, 4 titres olympiques en une seule Olympiade. Il faut revenir à l'Allemande de l'Est, Christine Otto, donc justement à la période de l'Allemagne de l'Est, la fameuse Allemagne de l'Est, suspecte. Et les deux Américains, Mars Spitz en 72 à Munich et Michael Phelps en 2004-2008, qui rentre. Donc, je pense que Marchand a marqué un grand coup. Il a en plus une médaille de bronze avec le relais 4 fois 100 mètres par équipe, 4 fois 100 mètres, 4 nages. Dire de plus que la natation française s'est révélée, parce qu'en tout, il y a 7 médailles. Incontestablement, on reviendra peut-être sur Léon Marchand. C'est le produit, je dis toujours, de l'école toulousaine. Celle qui a produit un glorieux passé avec, on connaît Alfred Nakache, mais aussi Alex Jani à l'époque, dans les années 30. Donc vous voyez, les meilleurs nageurs français, même pendant la guerre, venaient s'entraîner à Toulouse.
Et puis Jean Boiteux aussi. C'est l'air de la ville qui les rend
Nous avons la piscine autour de la piscine, qui est l'une des plus grandes d'Europe.
Oui, mais les piscines, il y en a partout.
Il y avait des entraîneurs. Le Dauphin du Toec avait une patte, comme le Cercle des nageurs de Marseille aussi, où s'entraîne Florent Manaudou, par exemple. Et puis en 52, je cite toujours Jean Boiteux, on en avait parlé.
Et quand on le voit, Léon Marchand, il paraît pas surhomme, mais il paraît
comme...
C'est pas Johnny Weissmuller.
Il est quand même 22 ans, boucle un regard, on va dire, lagon bleu peut-être.
Ouais, oui.
C'est quand même une star, il s'entraîne. Je pense qu'il fait 80 km par semaine, facilement, 100 km peut-être. Ouais. Donc, il perpétue la tradition française de la natation. Pour moi, il perpétue Kiki Caron en 64 à Tokyo, mais j'en avais déjà parlé. Don De Gaulle disait, mais je crois que c'est Antoine Blondin qui disait que c'était la petite fiancée de la France. Oui. Laure Manoudou en 2004. Et puis, je pense que 100 ans après les Jeux de 1924, Marchand entre dans la légende et puis il sera présent en 2028. Et voilà. C'est un grand nageur. Ne pas oublier, on y viendra tout à l'heure, en paralympisme, en paranatation, comme on dit, Hugo Didier, qui est aussi un Toulousain, qui s'entraîne avec Léon Marchand, qui s'entraîne aussi, qui est du club de Cugnot, et donc qui vient à l'ouest de Toulouse, et qui vient donc s'entraîner de temps en temps avec Marchand. Voilà. Lui, Hugo Didier, en paranatation, il a gagné le 400 mètres nage libre. Si on reste sur la natation et ses stars, incontestablement, je citerai Lady Key. C'est une nageuse américaine qui remporte sa 9e médaille d'or. Elle a gagné le 800 et le 1500. Lady Key sera à Los Angeles en 2028. C'est incontestablement l'une des plus grandes nageuses de tous les temps. 9 médailles d'or, ça veut dire qu'elle rejoint l'athlète féminine qui a gagné le plus de médailles d'or aux Jeux Olympiques. C'est une Russe. Larissa Latinina, on en avait parlé, elle est âgée de 89 ans aujourd'hui. C'est une ancienne gymnaste de l'Union soviétique des années 56-60. Et donc, elle dépasse, évidemment, puisqu'avec 7 médailles d'or, on retrouve Simone Biles, la gymnaste qu'on parlera tout à l'heure, et puis Vera Kalaska, c'est une gymnaste aussi tchèque, de la période 64-68. Voilà. Voilà pour la petite histoire. Aussi, il y a l'émergence d'une nageuse qui a vraiment fait quelque chose d'important aussi. c'est une Canadienne, c'est Mary Richardson. Elle a gagné 3 médailles d'or comme marchand, 200 mètres nage libre, 400 mètres nage libre et 200 mètres papillon, et elle a fini deuxième médaille d'argent du 400 mètres nage libre. Donc c'est incontestablement une grande star de la natation. Après, évidemment, en natation, il y a eu quand même le record du monde par un Chinois, Fan Phil. La Canadienne, c'est Sumer McIntosh, voilà, 17 ans. Elle a été avec Marchand, elle a été le Léon Marchand féminin. Fan Phil, le Chinois, qui bat le record du monde du 100 mètres nage libre. Hein, imaginez, Jacques, faire deux fois 50 mètres en 46 secondes 40. Quand j'étais petit et que je regardais à la télé Michel Rousseau, le meilleur français, il faisait 59, 58 minutes, il était 58 secondes, 59 secondes, il était champion d'Europe à l'époque. Voilà. En tout cas, je pense que la natation, c'est le sport, en tout cas, qui a permis à la France de monter sur, quand même, sur le grand podium de ces Jeux Olympiques. Après, incontestablement, judo escrime. Même si j'ai dit que les Français ont loupé le coach, l'escrime, le judo, c'est 10 médailles, dont 2 pour Teddy Riner, en équipe et en poids lourd. L'escrime aussi, c'est une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze, mais ça aurait pu faire mieux en tous ces 6 médailles. On va dire aussi que des sports ont émergé. On a vu pour le rugby à 7, la France est championne olympique avec Antoine Dupont, le capitaine de l'équipe de France de rugby à 15. Le surf aussi. On a vu le triomphe d'un Tahitien, Kaoli Vast, chez lui, à domicile. L'émergence aussi la boxe, on en reparlera avec les deux Toulousains. Le canoë-kayak, qui a fait de très bons résultats. En triathlon, victoire chez les filles de Cassandre Beaugrand, qui est devenue championne olympique. Où on a vu aussi Léon Bergère, en français, troisième sur le podium. L'épongiste français, les frères Lebrun, on les a vus. Beaucoup vu, et le tennis de table enregistre vraiment une embellie derrière la Chine.
La Chine a toujours été.
Oui. Le tennis de table inventé par les Anglais, hein, et transporté par les Anglais en Chine et les Chinois.
Les Chinois ont bien su reprendre la balle.
Oui, tout à fait. Bien que, quand même, au classement des médailles, la France est troisième derrière la Suède. La Suède a réussi à de bons résultats par équipe, par exemple, médaille d'argent. Donc, côté réussite, c'est surtout les sports collectifs, le volley, les champions olympiques. Il conserve son titre, ce que faisait l'Union soviétique dans sa grande période, et les États-Unis aussi. Il y a quand même aussi le basket, 3 médailles d'argent. Basket 3-3, basket féminin, basket masculin face à l'ogre américain. C'est remarquable. Le football aussi, médaille d'argent, 40 ans après 1984 à Los Angeles. Donc la bande à Thierry Henry arrive à être médaille d'argent. Ça veut dire que c'est remarquable. Et on regrette Kylian Mbappé, alors que Dupont, lui, a fait l'effort de concourir pour la France.
Ces sports-là, le rugby à 7 ou le basket 3-3, ça correspond à quoi ? Pourquoi avoir...
C'est un sport urbain.
Quel est l'intérêt ?
Si, il y a un intérêt. Moi, je préfère le rugby à 15, incontestablement, ou le rugby à 13. Mais le rugby à 7 a émergé, surtout dans les îles Fidji, par exemple.
Ils ne sont pas assez nombreux ?
Non, c'est parce que c'est des sports d'adresse. Ce n'est pas du contact. C'est de la vitesse et de l'adresse. Et d'ailleurs, les mi-temps sont de 2 fois 10 minutes.
Donc c'est un autre sport.
C'est un autre sport, incontestablement.
Et le basket 3-3, c'est bizarre ça.
Ça c'est très urbain. Je veux dire, un ballon, un panneau, l'infrastructure est le moindre. C'est du défi un peu.
Et du coup, on peut aller dans l'invention de nouveaux jeux ou de dévoiement d'anciens jeux.
On peut toujours inventer à l'infini. Le jeu de pomme, on peut revenir. Les Amérindiens aussi avaient des jeux. On peut retrouver ces jeux. Je veux dire, dans le paralympisme, il y a 2 sports qui sont apparus aussi, qui ne sont pas dans les Jeux Olympiques. La boccia, qui ressemble à de la pétanque. Pourquoi pas la pétanque un jour aux Jeux Olympiques ? Le breakdance est venu aussi aux Jeux Olympiques, mais il disparaît en 2028.
Alors la boccia, on a découvert.
Oui, on a découvert. Une Française est championne olympique.
Championne olympique sur son petit fauteuil, là. Oui, voilà. Alors la boccia, ça consiste en quoi ? C'est pareil, c'est de la... C'est de...
Moi, je dirais que c'est un peu une sorte de pétanque.
Oui, c'est une sorte de pétanque, oui.
Ça. Et vous avez aussi le goatball, qui est un mélange de football et de balle aux prisonniers. Bon. Le paralympisme, c'est 26 sports. Alors, 23 sports, je pense. Alors que les Jeux Olympiques, c'est 32 sports. Et pour revenir quand même sur la France, elle n'a pas eu de médaille dans 10 de ces 32 sports. C'est-à-dire qu'il y a des points faibles, incontestablement.
Oui, parce que ça fait un tiers quand même.
Oui.
Elle a été absente sur un tiers des compétitions.
Voilà, tout à fait. Autant j'ai oublié tout à l'heure le cyclisme sur route et le cyclisme VTT qui ont rapporté des médailles, autant le cyclisme sur piste aussi. Là, il faut être quand même sévère avec l'aviron, le canoë en ligne, qui n'ont remporté aucune médaille, la gymnastique aussi.
Féminine. Et le cavalier, qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Si, ils ont fait de médailles de bronze, ils se sont bien comportés. Moins bien que dans des périodes passées, mais par équipe, c'est bien. En individuel, ça a été plus difficile. Et puis, en gymnastique, évidemment, ça a été un fiasco pour la gymnastique française. Les masculins n'étaient pas qualifiés et les féminines qui étaient qualifiées ont fini 11e au concours par équipe, ce qui a fait qu'elles n'ont pu se qualifier aux agrès. Et on va retenir qu'une Algérienne, Kalia Nemour, d'origine française, 17 ans, est devenue pour l'Afrique la première médaille d'or en gymnastique. Elle a gagné les barres asymétriques, elle a fini 5e au concours général. Et c'était, normalement, c'était une Française, et elle étant blessée en 2021, la Fédération l'accusait à l'époque, la Fédération française de gymnastique, de ne pas l'avoir aidée, donc elle a pris son parti de prendre fait et cause pour, finalement, l'Algérie. Au tir, on a eu une médaille d'argent, Camille Jedrzejewski, mais bon, d'une manière générale, le tir, c'était à Châteauroux, hein. C'est comme la voile, c'était à Marseille.
Ouais, à Paris, c'est un peu compliqué quand même, la voile.
Oui, bien sûr. C'est à Marseille. Le surf, ça ne vous a pas échappé. On était à Tahiti, mais pas dans les Landes. Et bien là, c'est quand même assez décevant. Les Français ont été assez décevants. Mais la déception, malgré une médaille d'argent, c'est l'athlétisme. La France n'arrive pas. La dernière médaille d'or française en athlétisme, c'est 2012, Renaud Lavillini à la perche, c'est à Londres, ça fait 12 ans. Kevin Mayer, le décathlonien, a été blessé, et on doit notre médaille d'argent à Sirena Samba Mayela. Alors paradoxalement, sur 100 mètres haies, paradoxalement, les meilleurs athlètes français en athlétisme s'entraînent aux États-Unis. Ducos, un Bordelais, qui finit 4e du 400 mètres haies. Bon, il y a quelques belles 4e, 5e et 6e places en athlétisme.
Oui, mais ce n'est pas celle qu'on voit le plus.
Voilà,
quand même,
hein. Voilà. Voilà, je pense qu'on a, pu assez rapidement faire le tour des réussites françaises et puis des quelques déceptions. Voilà. Sinon, les Jeux, on y reviendra peut-être, ont montré quand même des stars. On y reviendra à Simone Biles, la gymnaste américaine, qui, elle, vraiment a été, je dirais, très impressionnante. On en avait déjà parlé de Simone Biles. Elle a 7 médailles d'or maintenant. Donc, elle rejoint Vera Kaslaya, la Tchécoslovaque. Son histoire, c'est 27 ans. Ce n'est pas une adolescente de 16 ans, comme on l'avait vu en 76, Nadia Comaneci, abandon de sa mère, des crimes sexuels infligés par... dans son enfance par le médecin de l'équipe américaine, qui était en liaison avec son ancien entraîneur Caroli, le Roumain. C'est une histoire que j'avais racontée sur les Jeux de Montréal en 1976. Des séquelles aussi, des pertes de repères à Tokyo en 2021. Elle n'accède à aucune médaille. Et donc là, elle fait d'un coup 3 médailles d'or, plus 4, ça lui fait 7 médailles d'or. Incontestablement, ça a été une des stars. On aime Simone Biles, battue quand même au sol par une brésilienne, Rebeca Andrade, belle aussi, le gainage, vous savez ce que c'est, Jacques, vous en faites un peu tous les jours, 10 minutes, les dents, vous faites un peu de gainage.
Voilà, très légèrement, hein,
voilà,
j'abuse pas.
Bon, la natation, c'est quand même un des sports majeurs. Bon, on va considérer que le tennisman Djokovic, 24 grands chelems en tennis, donc lui a gagné sa médaille d'or. C'est quand même remarquable.
Pour l'ensemble de son œuvre.
Pour l'ensemble de son œuvre. Remco Evenepoel, c'est un Belge en cyclisme. Il gagne le cyclisme sur route et surtout l'épreuve du contre-la-montre. On va signaler quand même, moi je dirais, une Ukrainienne au saut en hauteur. Elle s'appelle Yaroslava Mayuchik. Elle est recordman du monde du saut en hauteur, 2,10 m. Bon, elle est quand même championne olympique, pourtant une vie perturbée par 2 années de guerre. Elle avait fait, en février 2022, elle fait 2000 km. Elle part de Dniepro, sa ville natale, et elle va jusqu'au Portugal. Et elle laisse une famille derrière soi. Et après l'invasion, bien sûr, de l'Ukraine par la Russie en février 2022, l'Ukraine, entre parenthèses, finit au 22e rang avec 3 médailles d'or, 5 médailles d'argent, 4 médailles de bronze. C'est quand même de bons résultats. Les Ukrainiens ont été présents, mais ils sont présents aussi au sabre. C'est une épreuve d'escrime. On a pu voir l'importance d'une femme de 33 ans, Olga Karlan. L'année dernière, au championnat du monde, elle avait refusé de serrer la main d'une adversaire russe. Et là,
oui, ça peut se comprendre.
Oui, ça peut se comprendre. Elle a refait vraiment le même coup qu'en 2008 à Pékin. C'est-à-dire, elle a renversé la finale par équipe alors qu'en tirant en dernière position, elle avait beaucoup de retard. C'était donc au Grand Palais, l'escrime. On en a parlé un peu, l'Australienne Jessica Fox, la Néo-Zélandaise Elisa Carrington, Katia Ledecky, Sumer McIntosh, la Canadienne, le Chinois Fan Zhail, la boxeuse Iman Khelif, qui est la boxeuse algérienne dont on a parlé. Bon, voilà quelques stars de ces Jeux Olympiques.
Moi, il y en a un qui m'a impressionné, c'était dans les Paralympiques, c'était au saut en hauteur, avec cette unijambiste qui arrive, qui se présente. Moi, bon, avec mes deux jambes, je passerai pas la moitié de ce qui saute.
C'est vrai.
C'est très, très impressionnant.
Oui, bien sûr.
Une détente fabuleuse.
Oui, bien sûr.
Je
ne
sais pas comment
c'est vraiment des athlètes.
Ah oui, enfin, véritablement.
Oui, oui. Voilà,
alors, ils ont quand même peut-être, ils sont aidés, si je puis dire, aidés. Ils ont quand même une autre motivation, ils ont une grosse revanche à prendre sur la vie.
Oui.
J'imagine que ça les amène peut-être plus aisément, aisément ne doit pas être le bon mot, à se dépasser par rapport aux athlètes valides.
Oui, oui, c'est ce que je me souviens d'une phrase de Boris Cyrulnik, là, le fameux neuropsychiatre, on va dire, hein, quelque part, qui disait que le mental était essentiel et qu'il passait des années à faire des... si vous voulez, à se développer après un traumatisme. Il y avait finalement ce qu'on appelle la résilience, cette capacité à réussir, à vivre, à se développer en dépit de l'adversité, la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme. Et ça, c'est plus important chez les handicapés que chez les valides. Parce que, et en fait, cet handicap, c'est quelque part la source de leur succès aussi. C'est une part non négligeable de leur motivation quand ils vont à l'entraînement tous les jours. Et cet été...
Il y a quand même une part d'affect quand on les regarde. Il y a eu un gros engouement populaire. Hein.
Oui,
les tribunes étaient quasiment pleines.
Tout à fait.
Je pense que ça veut dire aussi quelque chose.
Oui, bien sûr. Même pour le paralympisme. Moi, j'aimerais bien que le paralympisme soit en même temps que l'olympisme. Oui. Parce que sinon, il y a un côté, comme vous signalez, choses voyeuristes, un peu.
Oui,
on dit, mais ils font ça, c'est presque comme si on allait à un spectacle de cirque. Et donc, moi, je maintiens toujours, il faut que le paralympisme soit intégré avec l'olympisme. Voilà.
Ça paraît très logique.
Voilà. Vous voyez, il y avait la parité aux Jeux Olympiques, hommes-femmes, 10 000 athlètes, 5 000 hommes, 5 000 femmes. Dans le paralympisme, il n'y a pas tellement la parité. Hein. Par exemple, l'équipe de France, elle avait, en paralympique, elle avait 236 athlètes. Il y en avait 81 hommes et 155, 81 femmes et 155 hommes. Il n'y a que la Chine qui, finalement, dans le paralympisme, arrive à avoir une sorte de mixité. Voilà. Donc, là-dessus, il y a des choses au niveau de la communication, au niveau de la représentation, au niveau même des médias à revoir, quoi, quelque part.
Gilles, on va méditer ces fortes paroles en écoutant un peu de musique pour souffler, un peu une pause musicale avec Gadjo Zaz Trio.
If you wanna have a real good time, here's a pretty music, rhythm and run. All you gotta do is get out of the time. Let's get happy tonight. If you you want to hear some low-down stuff and a little something out of the cup. All you gotta do is lose that drop and let's get happy tonight. If you see you're always losing, trouble you always oozing, try a little vocal cruising. The body do, the body do, the body do, the body do. Now you really got the ways it means. Start another coda to New Orleans. If you wanna get back to your team, let's get happy tonight. Da day, do day, do day, do day, do day. Ra do da do day. Ra do da do day. Ra di a di a do day. Now you really got the ways and means. Scout another coda to New Orleans. If you wanna get back to your teens, let's get happy tonight. Da day, do day, do day, do day, do day. Rap doop da do day. Rap doop da do day. Radia dia do day.
Voilà le Gadjo Zaz Trio et nous retrouvons avec Gilles Labouroir pour notre synthèse de ces Jeux Olympiques qui viennent se terminer, paralympiques et olympiques bien sûr. Alors on a vu les résultats par pays, on a vu les forces, les faiblesses de la France. Bon, tout ça entraîne quelques retombées économiques et même politiques, n'est-ce pas Gilles ?
Oui, tout à fait, incontestablement. Moi, ce que j'insisterai en priorité, c'est quand même sur la pratique. On considère, d'après un sondage, que 42% des Français et 24% des jeunes, je crois, ou 42% des jeunes et 24% des Français vont se mettre de nouveau au sport après ces Jeux Olympiques.
Oh, est-ce que ça va pas être un peu une flambée et puis...
Oui, ça sera sans doute une flambée, mais attendez, un Français sur deux en marche et en course à pied le fait régulièrement.
Et pourtant, on a un tiers d'obèses et ça va s'accélérer.
Oui, mais c'est vrai. C'est incontestable, mais je pense quand même que la principale raison des gens qui font de la marche ou de la course à pied, 50% de Français quand même, c'est faire du sport, c'est pour la santé, incontestablement. C'est pas pour l'amélioration de l'apparence, le plaisir, c'est en partie le plaisir, mais je veux dire, c'est pas pour la performance, voilà ce que je voulais dire, et la compétition. Voilà. Donc, ça veut dire que derrière, les clubs vont accueillir des primo-sportifs. Et c'est bien, dans un cadre d'une politique du sport sur la santé. Ça, c'est la première chose.
La Sécu qui va être contente.
Voilà, tout à fait, il faut mieux prévenir. Tout à l'heure, on parlait de la natation. Mais je pense incontestablement que ça permettra... j'avais un chiffre là qui me tenait à cœur. Les nageurs ont un risque de décès prématuré abaissé de 28%. Et un risque de décès dû à une maladie cardiaque ou un accident vasculaire cérébral réduit de 41%. Donc, la natation est incontestablement le sport idéal, je pense, et je pense que les piscines vont accueillir beaucoup, beaucoup de monde. Donc, les jeunes surtout. Mais bon, la France est quand même un pays de natation, comme on l'a vu. Donc,
pas forcément toujours bien équipé, d'ailleurs, oui, hein, en matière de piscine. Vous allez en Allemagne.
6 000 piscines en France.
Ouais, c'est un peu court, quand même.
Oui, certes, mais c'est sûr, on n'est pas dans les pays scandinaves.
Et en été, on les ferme parce qu'il n'y a pas assez d'eau.
Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Alors, au niveau des infrastructures, bon, c'est bon de donner quelques chiffres. La France, c'est 311 000 équipements. Alors, bien sûr, il y a 6 000 bassins de natation. Il y a 43 000 stades de football ou de rugby. Il y a 66 000 salles où on joue au basket, du handball, donc des salles de pratique collective. Et il y a 40 000 courts de tennis, quand même. 40 000 cours de tennis.
À la campagne, chaque village a son cours de tennis. Il faut voir dans quel état il est, quand même.
Je préférerais que le canton mette plutôt une piscine que des cours de tennis. Et bon, bien sûr, vous allez me dire, on le revoit dans le nombre de licenciés en France sportifs. La France, ça compte 15 millions de licenciés. Bon, c'est bon qu'on s'arrête sur les licenciés parce qu'ils sont le reflet de quelque chose. Le foot est en 1 avec plus de 2 millions. Le tennis intervient en deuxième position avec plus d'un million. Par exemple, chez les hommes, le tennis, c'est le deuxième sport en licencié. Et chez les femmes, le troisième. Après, vous avez un sport dont vous avez un peu tout à l'heure demandé les résultats, l'équitation. L'équitation, c'est 700 000 licenciés. C'est le premier sport féminin avec la gymnastique. Et chez les hommes, c'est très loin. Donc c'est vraiment impressionnant. En 4, vous avez le basket à 500 000. Et en dessous, vous avez des sports comme, bon, après, le judo, le handball, le golf. Golf, c'est quand même le troisième sport des licenciés chez les hommes. C'est un paradoxe du sport en France. Il nous faudrait des personnes qui fassent de la natation. La natation, elle vient avec 380 000 licenciés. Le rugby, 350. L'athlétisme, il nous faut deux. On n'est pas bon, on n'a que 300 000 licenciés. Et la gymnastique, j'en parlais à l'instant, on est à peu près à 280 000 licenciés. Et on n'est pas bon non plus.
D'accord. C'est curieux que le rugby, quand même, qui remplit les stades systématiquement, se trouve en...
du sud de la France, vous voulez dire, d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine.
Oui.
Oui,
mais à Lille, on joue peu, oui, effectivement.
On joue, mais ce n'est pas une culture. Si vous prenez les championnats fédérales, il y a... Le rugby amateur et l'âme du rugby, vous ne voyez pas trop d'équipes du Nord, quoi. S'ils sortent, c'est parce que c'est des gens du Sud-Ouest qui sont arrivés à l'époque postiers, militaires là-bas, quoi, ou instituteurs.
Et l'équitation en troisième position, c'est très curieux aussi, parce que c'est quand même pas un sport très démocratique. Il faut un peu de sous, hein, pour monter à cheval, pour entretenir un cheval.
Mais c'est, je vous l'avais dit, le cheval est une passion française.
Oui, c'est vrai.
Donc ça, c'est
on monte à cheval en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Irlande, on monte partout.
Ici, il y a des clubs hippiques, vous allez à Pêche David, vous avez une sorte de ferme privée qui donne des cours pour des
avec 90% de femmes.
Oui, tout à fait. Exactement. Voilà. Ça, je pense que c'est l'aspect qui va rester des Jeux. Peut-être une inversion. Bon, la natation et l'athlétisme, il y a peu de licenciés finalement par rapport à des sports collectifs. La France est un sport de. La France est très forte en sport collectif. On l'a vu, hein, puisqu'on a parlé du volley, du basket, du rugby, etc.
Et vous parliez tout à l'heure des gens qui courent ou qui marchent. Ceux-là, ils n'ont pas besoin d'avoir une licence. Vous pouvez courir sans licence.
Oui, tout à fait.
Il y en a beaucoup qui courent.
Il y en a beaucoup qui courent. Quand vous voyez le marathon de Toulouse qui va se dérouler le 10 novembre, le dimanche 10 novembre, où le semi-marathon est le 10 km, eh bien, à 80%, il y a des gens qui ne s'inscrivent que sur un certificat médical. Ils n'ont pas fait la démarche d'aller dans un club sportif, par exemple. Oui, là, vous avez raison. Mais marcher 10 000 pas par jour, comme on dit, faire 5 km, c'est le meilleur médicament qui existe, Jacques, incontestablement.
Je le pratique tous les jours.
Voilà, tout à fait. On est loin peut-être des retombées économiques des Jeux Olympiques. Alors, avant de venir ici, je savais que vous alliez me poser la question. J'ai regardé un petit peu. Les économistes, bien sûr, on attend l'État... comme vous avez dit, l'état de rapport de la Cour des comptes et peut-être autre chose, le traçage des dépenses en cours par rapport aux différents budgets initiaux qui partaient du simple au double. Incontestablement, certains annoncent 1 milliard par an sur 10 ans. Donc, quelque part, il va y avoir un effet Jeux Olympiques. Et on a pu le constater quand même. Il y a un tourisme sportif qui est arrivé à Paris, venant même de l'étranger, et qui a supplanté la baisse du tourisme culturel. Vous voyez, le provincial qui veut visiter le Louvre cette année, c'est loupé. Bon, en plus, l'hébergement est très élevé, c'est loupé pour cette année.
Des barrières partout.
Voilà, il y avait. Donc, si vous voulez, c'est loupé. Mais néanmoins, je pense quand même qu'il y aura nécessairement de ce côté-là, moi je ne dis pas 0,3% du PIB, comme on entend souvent parler, ou 0,1%, mais il y aura quand même un effet Jeux Olympiques sur la croissance faible de l'économie française en 2024-2025.
Ça veut dire qu'il faudrait finalement, il faudrait les faire plus souvent ?
Oui, plus souvent, bien sûr. Mais ça, c'est... Je pense que la France a été quand même sur la carte du monde, un pays là, qu'on a bien vu, et qui a eu une bonne presse au niveau international. On pense même que ça n'a pas énormément coûté dans l'ensemble. Et puis, par rapport à, je ne sais pas si vous en souvenez, Montréal 1976, oui, oui, oui. Où la ville s'est endettée pendant 30 ans quand même. La Grèce, en 2004, qui a été un échec aussi économique, des infrastructures qu'on appelle les éléphants blancs, qui sont laissés à l'abandon. Et donc, au niveau économique, j'avais signalé, j'ai remarqué quand même qu'on parle souvent d'un département comme la Seine-Saint-Denis. Bon, elle sera quand même héritière de certaines infrastructures, le village olympique, le village des médias, le village des athlètes, bénéficiant quand même de pas mal d'infrastructures. Elle a bénéficié de 80% des financements de la Société des raisons des infrastructures des Jeux olympiques. Donc, je veux dire, il en restera nécessairement quelque chose au niveau infrastructurel, même s'il peut y avoir des problèmes de fonctionnement.
Il y a quelque chose qui va rester au-dessus de nos têtes pendant quelques centaines d'années, c'est tout le CO2 qui a été rejeté, parce que ça, on n'en parle pas du bilan environnemental.
Non.
Des avions qui ont circulé, des bagnoles, de l'artificialisation, du béton, ça a un coût aussi.
Oui.
Mais ça, je ne crois pas qu'il y a grand monde qui va l'estimer.
Oui, c'est exact. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Ok, ça c'est vrai. Mais bon, moi, je retiens toujours des aspects, par exemple, le patrimoine à tirer profit des Jeux Olympiques. Je veux dire, la Tour Eiffel, je ne sais pas, quand on est dans le fin fond de l'Ouzbékistan, on en parlait tout à l'heure parce qu'ils ont dominé la boxe chez les hommes, ou du Taïwan, par exemple, qui a dominé la boxe chez les femmes avec la Chine. Eh bien, la Tour Eiffel, la Place de la Concorde, le Grand Palais, le Domaine de Versailles, l'Esplanade des Invalides, ça leur restera quelque chose. Et peut-être qu'ils viendront...
La Tour Eiffel, quand on se balade dans le monde, on en voit partout.
Tout à fait.
Même dans les pays les plus modestes.
Voilà.
Surtout, d'ailleurs.
Voilà ce que je voyais comme... Mais on attend le traçage des dépenses au vu des budgets qui ont été donnés. Mais là, je suis moins spécialiste sur ces questions-là que vous.
Oui, alors moi, il faudrait avoir des informations. Alors, on va laisser travailler la Cour des comptes. Ils sont très bons.
Oui.
Ils sont bien équipés. On va voir ce qu'ils vont nous sortir parce qu'il y a les dépenses directes. Il y a toutes les dépenses indirectes aussi. Et ça, il va quand même bien falloir qu'on fasse un bilan.
Oui, bien sûr.
Et on pourrait peut-être être un peu surpris. Parce qu'il va comment on ne va le savoir que dans quelques mois. Je pense que l'effet Jeux Olympiques étant passé, on ne s'attardera pas beaucoup sur le coût, malheureusement.
Oui, peut-être, oui, bien sûr.
Alors, Gilles,
on continue peut-être par les Paralympiques.
Oui, ce serait bien
parce
de parler des Paralympiques.
Parce qu'on parle des Jeux Olympiques, mais les Paralympiques, c'est quand même quelque chose...
Ce qui est
curieux,
c'est que, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est regrettable, ils n'ont pas, ils ne se sont pas passés au même moment.
Ouais.
Alors, est-ce qu'on pouvait avoir autant de monde sur les stades ? Peut-être pas. Peut-être qu'il
y avait 10 000 athlètes pour 32 sports dans l'olympisme, on va dire.
Ouais. Et 28, vous avez dit, je crois, tout à l'heure.
Il a dit 26. Pour 4 000 athlètes.
Est-ce que c'est possible de les avoir concomitamment sur le stade ?
Je pense que ça pourrait être possible. Ça pourrait être possible, mais...
Ce qui est curieux aussi, bon, cérémonie d'ouverture, très bien, mais pourquoi il y a une cérémonie de clôture alors que les Jeux paralympiques suivaient ?
Oui, c'est vrai.
Ça n'a aucune logique, ça, par contre.
Oui,
on fait une cérémonie d'ouverture pour les paralympiques, on a l'impression qu'il y a deux compétitions complètement différentes, alors que ce serait certainement, même psychologiquement pour les paralympiques, beaucoup plus logique de les avoir dans une même et seule cérémonie d'entrée et de fin.
Moi, je pense qu'on y arrivera un jour, peut-être dans 100 ans, quand un paralympique battra un athlète valide.
Voilà, ben nous le commenterons à ce moment-là, ce même micro, Gilles, bien sûr.
Moi, je me souviens toujours du Baltrap, si vous voulez. C'était une épreuve olympique, hommes et femmes confondus. Mais c'est une Chinoise qui avait gagné. Du coup, qu'a fait la Fédération internationale de Baltrap ? Elle a fait une épreuve masculine et une épreuve féminine. Donc, si vous voulez, le jour où un paralympique, j'ai entendu tout à l'heure, je pensais... au coureur sud-africain Oscar Pistorius, qu'on avait, qu'on avait découvert en 2012
à Londres. C'est celui qui a tué sa femme, non?
Oui, il a tué en effet sa femme. Mais bon, bien
ça
sûr.
Ça prouve qu'il n'était pas si handicapé que ça.
Il concourait, lui, à l'époque, avec les valides. Hein. Mmh. C'était un coureur de 400 mètres. Mmh. Même la porte-drapeau de l'équipe de France du para-athlétisme, la porte-drapeau féminine, la porte-drapeau de l'équipe de France, c'est une femme qui court le 400 mètres aussi. Un tour de piste, oui, Jacques, le tour de piste qui fait 400 mètres. C'est 26 à l'heure pour elle. Hein. Nantemin Keita, elle est aveugle. Ouais. Mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Bon, Oscar Pistorius, lui, il courait plus rapidement, mais bon... Lui, il a en effet été condamné à 6 ans de prison ferme en 2013.
Mais est-ce qu'on ne court pas ? Alors lui, il avait des lames, hein, il courait avec des lames. Il y a quand même un rebond, une poussée qui est différente.
Alors c'est là où...
Est-ce que...
Blade Runner, on l'appelait à l'époque.
Voilà. Est-ce que ce n'est pas un avantage finalement, même sur des valides ?
Oui, alors justement...
Ce type d'équipement.
En effet, c'est...
Parce que là, il y a encore une marge de progression que l'on va faire.
Oui, le matériel a beaucoup évolué pour les Paralympiques. Oscar Pistorius, lui, on a commencé à regarder qu'il courait aussi vite que les valides grâce à sa lame. Mmh. Et en fauteuil roulant, vous savez, je parle toujours de Pierre Fairbank, un néo-calédonien qui fait 35 kilos. Bon, il a des bras qui font presque 90% de son poids de corps. Ouais. Ben lui, il tire maintenant des fauteuils qui sont en carbone ou en Kevlar. Et ils vont à 40 à l'heure. D'ailleurs, c'est lui qui a permis, c'est un néo-calédonien, qui a permis le Centre national du paralympisme en athlétisme en Nouvelle-Calédonie. C'est à Nouméa qu'on forme l'élite du paralympisme en France. Hein. C'est pas à l'INSEP à Paris, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Donc c'est sûr qu'il y a des aspects techniques qui peuvent aider les Paralympiques à rattraper certaines choses dans des sports très techniques, je veux dire. Le tir à l'arc, par exemple, Paralympique peut battre un...
J'en ai vu un tirer avec ses pieds quand même. Oui. On parle de tirer comme un pied, mais là, pour le cas, cas particulier, c'était là aussi très très impressionnant.
Oui, oui. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que le handicap n'est pas le même suivant chaque sport. Dans chaque sport, on désigne le handicap par la discipline et puis finalement un chiffre qui représente le degré de handicap.
Ils ne sont pas les mêmes pour tous.
Ils ne sont pas les mêmes pour tous.
Et est-ce que là, il y arrive à corriger les différences au niveau des résultats ou pas ?
Oui, on corrige nécessairement, mais on corrige par exemple quand il y a deux chiffres, le premier représente le type d'handicap et le deuxième le degré. Par exemple, si je prends T51, c'est les courses en fauteuil roulant. C'est un handicap qui est moins élevé que par exemple la catégorie 20 des handicapés mentaux. Ou la catégorie 11 à 13, si vous voulez, des gens aveugles, des gens qui ont des handicaps visuels. Plus le handicap est important dans le classement, plus le chiffre est bas. Plus le handicap est important, plus le chiffre est bas. Je viens de le dire, vous avez le T11, T13, le T20. Après, vous avez l'amputation des membres inférieurs ou supérieurs. Après, vous avez les gens qui sont dans des courses en fauteuil roulant. Bon, allez, il y a des classements, même si vous voulez, quand vous faites du basket en fauteuil, où la France n'a pas été bonne dans les sports collectifs. On va voir les points forts et les points faibles de la France en paralympisme. Mais pour les sports collectifs comme le basket, vous avez un nombre de points attribués à chaque joueur en fonction de son handicap. Et chaque équipe doit respecter un total de points à ne pas dépasser pour pouvoir évoluer sur le terrain. Par exemple, pour le basket fauteuil, c'est 14. Voilà. Vous avez, par exemple, l'équipe d'Iran qui a gagné le volley. Vous aviez quelqu'un qui faisait 2,49 m assis. Vous voyez ? Taper l'Iran et triple, quadruple, je sais pas, ils sont champions olympiques en volley. L'Iran, sur la géopolitique du monde, vous voyez ? Eh bien, que lui, il faisait 80% des points de l'équipe. Vous voyez ce que je veux dire ?
Est-ce que c'est tout à fait normal ? Il n'y a plus trop d'égalité, là.
Non. Non.
Ça devient un peu dérisoire.
Ouais. Et puis, quand on voit un pays comme la Chine, le paralympisme, c'est une industrie d'État, quelque part.
C'est une image.
Comme c'est de l'Est à l'époque.
C'est de la communication, ouais, pure et simple.
Et là, vous avez une chinoise en natation qui a remporté 7 médailles d'or. Quoi. La Chine a remporté 220 médailles. La France ayant remporté 75 médailles, je le rappelle, 19 en or, 28 en argent et 28 en bronze. Elle se classe 8e au classement général, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure.
Oui, on l'a dit, oui.
Ça vous montre... Et puis, dans le paralympisme, vous avez des gens qui peuvent avoir... par exemple, j'ai remarqué que la parasportive la plus médaillée de l'histoire des Jeux paralympiques, c'est une paranageuse malvoyante, Trista Jorn. Elle a participé à 7 éditions et elle a amassé 55 médailles, dont 41 en or. Et chez les hommes, c'est un paratireur suédois qui a totalisé en tout, je crois, 30 médailles et 17 en or. Et voilà.
En fonction de leur handicap, ils n'ont pas les mêmes techniques. Je me souviens avoir vu ce nageur qui n'a ni bras, ni jambes.
Le Brésilien.
Oui, voilà, petit, sans bras, il n'a rien et il avance beaucoup plus vite que les autres, avec une technique qu'il est le seul d'ailleurs à maîtriser, à utiliser. Est-ce que c'est normal ? Parce que dans un bassin de valides, si on peut les appeler comme ça, ils ont tous la même technique.
Oui.
Là, c'est complètement différent. Est-ce qu'on peut juger des gens qui n'ont pas le même niveau de handicap et pas du tout les mêmes techniques ? Est-ce que ça a encore du sens ?
C'est-à-dire, on multiplie les épreuves. Je crois qu'en tout, les Paralympiques, c'est 600 épreuves. Il n'y a pas 600 épreuves pour les Jeux Olympiques. Vous voyez, je veux dire, même si on y arrive peut-être à 600 épreuves parce qu'il y a plusieurs sports, il y a 32 sports, alors que dans le paralympisme, il y en a moins. Mais on est obligé de quand même, dans la définition de ce que disait Gutmann, un réfugié juif, un médecin qui avait... Son histoire est impressionnante, on en avait un peu parlé. Oui. Et quand je revois les choses, c'est Salazar, le portugais, le dictateur portugais, qui l'appelle pour lui indiquer qu'il a un ami de sa famille qui est en difficulté. Donc l'Allemagne nazie permet à Gutmann de partir en Angleterre et il y restera. Il avait commencé par faire une classification à travers un examen. Il évaluait l'impact du handicap sur les performances de l'athlète. Et ça, c'est très difficile. Évalué à l'époque, en 1948 et après les Jeux de Rome, en 1960, l'impact du handicap sur les performances de l'athlète. Autant pour les valides, c'est plus facile, incontestablement. Vous courez le 100 mètres, il y a une barrière infranchissable, ou au marathon, c'est infranchissable de battre des records. Vous ne pouvez pas aller en hauteur plus de 2,45 m actuellement, ou 2,50 m, peut-être 2,60 m, mais un jour, ça s'arrêtera.
À quoi ça sert tout ça ? C'est un travers de l'homo sapiens, de vouloir courir toujours plus vite, d'arriver le premier, de lancer le plus loin, de mettre la baballe dans le trou. Est-ce que c'est pas un peu dérisoire tout ça ?
Mais dans l'histoire, les Amérindiens, les Africains, tout le monde avait ça aussi. Donc c'est un travers
de l'homo sapiens.
Un travers qui est repoussé, je pense, la mort finalement. Comme je le pense fondamentalement. Il y en a qui écrivent, il y en a qui font du sport, il y en a qui font autre chose. Et ça, je l'ai ressenti cet été en lisant un livre, La ligne droite de Yves Guibaud, je ne sais pas si vous connaissez, la préface est de Philippe Delerme, et qui rappelle un peu, ça s'appelle La ligne droite, ça a été écrit en 1956, ça évoque l'histoire d'un coureur allemand de 800 mètres qui a perdu un bras pendant la guerre sur le front soviétique, et qui renaît à la vie grâce à la course à pied. Voilà. Et j'ai trouvé que... Bon, moi, j'aime bien son auteur, Yves Guibaud, j'en parle. Bon, il est né en 1916. Il est décédé en 1994. Il a beaucoup écrit sur l'épreuve de marche Paris-Colmar. Il a beaucoup écrit sur Louison Bobet. Moi, je suis un adepte de ses écrits dans les années 50. Il était antimilitariste, fasciné par la Première Guerre mondiale. Et il est enterré à côté d'un obus de 75 cm dans le cimetière de l'ancien Craon, sur le chemin des Dames, un village totalement détruit pendant la Première Guerre mondiale. Et comme il a souvent écrit, il dit « J'ai fini par rejoindre mon paysage ». Et l'histoire qu'il raconte, celle de ce coureur de 800 mètres, très touchant. Je le conseille, La dernière ligne droite. Ça montre que, valide ou pas valide, on est obligé d'avoir des challenges, quoi, des motivations... Des, des Everest à franchir. Voilà.
C'est un pied de nez à la mort ou à la finitude ?
Oui, je pense, incontestablement.
Donc le sport, c'est de la philosophie aussi.
Oui, c'est aussi de la philosophie. D'ailleurs, il y a beaucoup de philosophes du sport. On marche pourquoi ? On court pourquoi ? On est les premiers chasseurs couraient pour manger. On court pourquoi aujourd'hui ?
À l'époque, on courait pour attraper le renne, pour le tuer.
Oui,
pour...
bien sûr, parce qu'on était plus résistant que le renne,
oui.
Qui était sprinter, alors que l'homme est marathonien. Et aujourd'hui, on court pour... performance, pour s'insérer dans la société, pour... enfin, on court. La performance, qui n'est pas, quand on regarde les Français, l'aspect le plus important. Pour eux, c'est la santé. On marche et on court pour la santé. Point. On ne court pas pour amuser la galerie, on ne court pas pour la performance. Peut-être 7 ou 8% des Français courent pour la performance. Je crois que 16% des jeunes font du sport intense. 10% de Français font du sport intense, c'est-à-dire chaque jour. Mais sinon, les autres, ils sont comme vous et moi. Ils en font un peu de temps en temps et c'est bien. Mais quand même, c'est un marqueur de cette société contemporaine. Je pense que là, ce serait l'objet d'une autre émission, presque.
Oui, vrai, mais on en reparlera, parce que le bon sapiens, c'est aller toujours plus loin, mais dans tous les domaines. Oui. On parle de la performance physique. Nous sommes dans des régimes économiques capitalistes. C'est la performance financière qui compte. Oui. C'est le chiffre du bas, combien on va gagner.
Oui.
C'est toujours ça, c'est un travers de l'Homo sapiens que n'avait pas forcément le Néandertalien ou le Denisovien, ouais, ou les autres.
On citait tout à l'heure Boris Vian, que j'aime, oui, beaucoup. Il disait que l'effort physique a un effet cathartique, apaisant, libérateur, un peu comme les pleurs finalement. Et donc ça devient le sport, je dirais, c'est une base de sécurité, d'expression, qui évite de rester dans une sorte de peine muette, finalement. Donc,
on va demander à notre équipe philo dans l'émission Kéros de nous faire quelque chose là-dessus.
Oui,
on ira participer, Gilles.
Je vous fais confiance, il n'y a aucun problème.
Bien, nous sommes presque au bout, finalement, de notre aventure olympique. On l'a démarré quand Pierre de Coubertin a imaginé, et on arrive aujourd'hui à Paris. Dans 4 ans... peut-être qu'on sera autour de ces micros pour, oui, parler de Los Angeles, je l'espère pour nous, 2028. Un dernier mot.
Il y aura les Jeux d'hiver en 2030 aussi.
Oui, alors les Jeux d'hiver qui sont a priori attribués à la France.
Oui, en 2030 à Briançon.
Ce qui
Nice.
Est quand même beaucoup plus gênant, oui, en termes environnementaux. Vous savez qu'elles sont mes marottes, Gilles, oui, mais là, oui, ça veut dire aussi artificialisation, ouais, des sols, ça veut dire...
Ça ne sera pas quand même un nouveau Sochi, quand même.
Non, mais non, pas tout à fait, mais débauche de bitume, ouais, débauche de canons à eau, et l'eau, on sait qu'on n'en a plus trop. Ouais. Je ne sais pas si ça a vraiment du sens, ce genre de choses. Autant ces JO-là, peut-être, ne coûteront pas écologiquement très très cher, par contre, les autres vont abîmer notre montagne, ça c'est très clair. Et là, ça devient très dérangeant.
Vous avez sans doute raison, Jacques.
Je ne sais pas si j'ai raison, mais je pense qu'on peut un peu s'inquiéter. Mais on en reparlera, Gilles. Hein, vous nous ferez un point là-dessus. Merci, merci en tout cas de l'immense travail que vous avez fait, parce qu'au cours de ces 4, 5, 6 émissions, je ne sais plus combien on en a fait.
C'est la quatrième.
C'est la, non,
on en a fait 3 sur l'histoire des Jeux Olympiques.
Ça m'a semblé beaucoup plus important compte tenu de...
Et là, aujourd'hui, on faisait un spécial Paris 2024.
Compte tenu de la masse d'informations que vous nous avez livrées.
On aurait pu faire plus. Je m'aperçois que j'ai peut-être fait une ou deux erreurs sur des points techniques. Enfin bon, je pense
que... Mais vous êtes tout à fait...
Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on ait pu discuter un petit peu à bâton rompu.
Voilà, qu'on ait pu parler un peu et donner peut-être un ensemble d'informations.
Oui, tout à fait.
D'autres chaînes n'ont pas donné. En tout cas, merci. On va vous retrouver très bientôt dans vos chroniques sportives habituelles.
Histoire du sport et histoire de la littérature.
Histoire de la littérature, puisque vous maniez les deux. Donc finalement, c'est la tête et les jambes que vous nous faites, Gilles.
Voilà.
Merci en tout cas de cet immense boulot. C'était Cap Cap, une émission à quatre mains, si je puis dire, de Gilles Labourois et de Jacques Lavergne. À la technique et à la réalisation, nous avions Grégor Naches. Merci Grégor. Et puis bien sûr, vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous.